On va à présent parler de prévention. Cette question est essentielle pour permettre de vieillir en bonne santé, que ce soit sur le plan physique ou cognitif. Et justement, donc, le docteur Catherine Elmer, épidémiologiste et directrice de recherche à l'INSERM, travaille sur le vieillissement cognitif des personnes âgées. Et en ce sens, elle mène de nombreuses études qu'elle va nous livrer dans un instant et nous expliquer l'intérêt de faire de la prévention pour éviter de graves pathologies et notamment découvrir la fameuse étude dont on parlait tout à l'heure. Bonne conférence.
Bonjour à tous, merci pour cette introduction. Donc effectivement, on va parler prévention, d'abord de façon un peu générale, et puis je promets pour ceux qui ont posé les questions, et je sais qu'il y a beaucoup de participants de la cohorte Bécube dans la salle, je promets que je parlerai un petit peu de Bécube à la fin, et vous pourrez bien sûr me poser toutes les questions que vous voudrez à la fin. Alors, on va parler de prévention avec un objectif de faire, si possible, de la prévention un peu plus personnalisée et qu'est-ce qu'a apporté la recherche pour mieux connaître cette prévention. Alors, vous le savez, ça, ce n'est pas un scoop et on l'a rappelé en début d'après-midi, la population est vieillie et, par exemple, en France, j'ai reporté des chiffres ici qui montrent qu'en 2000, on avait moins de 10 millions de personnes qui avaient plus de 65 ans. Et les projections de l'INSEE montrent qu'en 2050, on va doubler ce chiffre avec plus de 20 millions de personnes qui auront plus de 65 ans. Et en plus, une part plus importante, ces 20 millions de personnes représenteront une part plus importante de la population française. Et si on s'en réfère aux projections qui ont été faites concernant la maladie d'Alzheimer, puisqu'on est là pour parler de ça, il y a des projections qui sont proposées. Alors, heureusement, là, ce n'est pas les chiffres en France, hein, c'est les chiffres au niveau mondial. Vous pouvez voir dans les petits bonhommes, oui, on le voit assez bien. Les projections actuelles montrent que c'était en 2015, mais grosso modo maintenant, on a un peu moins de 50 millions au niveau mondial de personnes qui présentent une maladie d'Alzheimer. Et si on se projette en 2050, on devrait avoir, d'après ces chiffres, plus de 130 millions, donc plus du double des personnes qui présenteraient cette maladie. Et ces projections, par contre, elles sont basées uniquement sur le fait que la population âgée va devenir plus importante. Donc mathématiquement, population plus importante, cette maladie augmentant de façon exponentielle avec l'âge, ben, on va avoir plus de personnes qui vont avoir cette maladie. Alors ça, c'est pas très optimiste comme projection, et c'est basé sur le fait que la fréquence de cette maladie à un âge donné, elle est stable. Mais est-ce que cette fréquence est vraiment stable ? Ça, c'est pas sûr, parce que il y a plein de choses qui vont pouvoir influencer notre risque de maladie d'Alzheimer, notre environnement, notre mode de vie, notre état de santé, plein de choses qui vont jouer sur notre vieillissement cognitif et sur la survenue du risque de maladie. Et un changement dans nos habitudes de vie pourrait permettre de prévenir ou au moins de retarder de quelques années la survenue de la maladie et en tout cas l'apparition des symptômes cliniques de cette maladie. Et on le sait bien, on n'est pas vieux, on n'est pas considéré comme âgé maintenant au même âge que nos ancêtres ou que dans les années 1900 ou 1950. Alors, ce graphique, vous l'avez déjà vu tout à l'heure, Bruno Dubois l'a montré. Est-ce qu'on peut vraiment penser qu'il y a une diminution de la maladie d'Alzheimer ? Donc, je ne vais pas vous expliquer exactement les chiffres, mais en gros, ce n'est pas très facile parce qu'on n'a pas de pointeur pour montrer, mais en gros, quand on se situe, le chiffre que vous voyez, c'est 0,83, et quand on se situe à gauche du 1, c'est qu'on a moins de risques. Moins de risques, ça veut dire quoi ? Moins de risques dans cette étude. C'est plusieurs études de recherche qui se sont mises ensemble pour montrer ce résultat et qui ont montré qu'avec le temps, il y avait moins de risques. On a moins de risques aujourd'hui de développer une maladie d'Alzheimer qu'il y a 10, 20 ou 30 ans. Alors, quand je dis moins de risques, attention, ça ne veut pas dire que le nombre de personnes malades va diminuer, puisque je vous l'ai dit, mathématiquement, on a plus de personnes âgées, donc plus de malades. Ça veut dire que pour une personne donnée, à un âge donné, son risque de développer la maladie est maintenant un petit peu moins important que pour la même personne qui aurait vécu 20 ans avant. Donc notre risque moyenne, bien sûr, mais notre risque est moins important maintenant. On développe la maladie un petit peu plus tard qu'avant. Pourquoi ça ? Ben parce qu'il y a de nombreux facteurs, que ce soit des facteurs comportementaux, des facteurs médicaux, des facteurs sociaux, des facteurs d'environnement qui peuvent jouer sur ce risque de maladie. Et on estime, alors bien sûr ce sont des estimations, on n'a pas de certitude, mais on estime qu'il y a à peu près 40%, là j'ai mis des démences, on vous a défini tout à l'heure le terme de démence qui n'est pas un très joli terme, et je m'en excuse parce que je vais l'employer par habitude de langage, mais en gros c'est la phase clinique de la maladie avec les répercussions, comme l'a bien expliqué Vincent Planche, eh bien on estime qu'il y a 40% de ces maladies qui peuvent être évitable, en tout cas peut-être pas complètement évitable, mais en tout cas largement retardé au cours du temps. Et il y a de nombreux facteurs, je vais vous les remettre, je vais vous les redétailler ensuite, mais il y a de nombreux facteurs qui peuvent jouer. Et ces facteurs, ils vont jouer sur différentes choses. Si vous regardez les petits carrés rouges à droite, alors je m'excuse hein, parce que c'est un article scientifique, c'est une figure d'un article scientifique, donc ce n'est pas en français. Mais si vous regardez ces petits carrés rouges, en fait, ils vont jouer sur une diminution des lésions, ce qui se passe au niveau du cerveau, dont on vous a parlé dans les précédentes interventions, des lésions spécifiques de la maladie d'Alzheimer, mais aussi d'autres lésions qu'on peut trouver avec le vieillissement, d'autres lésions qu'on peut trouver avec la maladie vasculaire. Et puis, ils vont aussi pouvoir jouer en termes protecteurs pour jouer sur ce que Bruno Dubois a défini comme la réserve cognitive ou cérébrale. Alors, ces facteurs, quels sont-ils ? Eh bien, il y a tous les facteurs vasculaires. Et ça, c'est très important quand on, à tout âge, et encore plus quand on avance en âge, de bien équilibrer tous ces facteurs vasculaires. Qu'est-ce qu'on appelle le facteur vasculaire ? C'est le diabète, c'est l'hypercholestérolémie, c'est l'hypertension artérielle. C'est aussi le tabagisme et il vaut mieux éviter bien sûr de fumer. C'est aussi l'obésité qui va contribuer à tous ces facteurs vasculaires. Quelque chose qui va beaucoup avec aussi, c'est l'inactivité physique, parce que ben, tout ça, c'est lié. Hein. Quand on est inactif physiquement, on va avoir plus tendance à avoir une obésité, on va moins bien équilibrer sa glycémie et son diabète, on va moins bien équilibrer son hypertension artérielle. Donc tout est lié, hein. Faut pas chercher. Mais aussi toute la partie plus sociale, environnementale, tout l'état de santé mentale, est-ce qu'on est déprimé ou pas, est-ce qu'on a plus ou moins de contacts sociaux, est-ce qu'on a plus ou moins de capacité à se stimuler justement par ces contacts sociaux, par les activités qu'on va faire, hein. Et puis la partie troubles sensoriels, hein. Ben, est-ce qu'on a des troubles auditifs, est-ce qu'on a des troubles visuels? Alors oui, bien sûr, on en a, et avec l'âge, on en a tous. L'important, c'est de les appareiller, d'avoir des lunettes à sa vue, parce que c'est des petites choses, mais c'est des petites choses qui vont isoler un petit peu plus les personnes. C'est sûr que quand on entend moins bien dans un repas de famille, ben, on va tendance à avoir se mettre un peu en retrait, et on ne va pas profiter de toute la stimulation cognitive des discussions qu'on pourrait avoir avec sa famille ou avec ses amis. Donc voilà, tout ça c'est un petit peu l'ordonnance qu'on pourrait faire finalement pour arriver à prévenir cette maladie et prévenir le déclin cognitif avec l'âge. Et au-delà de ces facteurs, ça c'est 14 facteurs qui ont été reconnus et c'est vraiment des facteurs qui ont été à nouveau publiés en les actualisant cet été. Donc vous voyez que c'est quelque chose de très récent. Au-delà de ces facteurs, nous on travaille aussi sur d'autres facteurs. Vous venez d'avoir une intervention sur le safran. Et nous, sur Bordeaux, on travaille beaucoup sur tous les facteurs nutritionnels. Alors il y a plusieurs types de régimes. On parle beaucoup du régime méditerranéen qui semble être bénéfique. Et aussi tout ce qui tourne autour du microbiote. Il y a de plus en plus de recherches sur ça. Et puis on travaille aussi sur un autre facteur un petit peu plus surprenant peut-être et moins connu, mais sur les infections et notamment sur certains virus, certaines bactéries aussi, mais certains virus qui pourraient favoriser ces maladies. Voilà, c'est encore à l'état de recherche pour l'instant, mais c'est des pistes intéressantes. Et puis de façon plus générale sur différents toxiques auxquels on peut être soumis qui pourraient favoriser ces maladies et tout ce qui va pouvoir favoriser dans l'organisme une inflammation chronique. Alors, toutes ces données et toutes ces connaissances sur ces facteurs de risque, c'est beaucoup issu d'études de recherche que nous, on appelle des cohortes en population générale. Qu'est-ce que c'est les cohortes en population générale? Ben, l'exemple type, c'en est l'étude B-Cube dont je vais vous parler après. Mais c'est de larges populations de personnes âgées. Alors ici, j'ai mis 65 ans et plus, mais maintenant, on veut pouvoir prévenir plus tôt et on commence les études avec des personnes plus jeunes. De larges populations de personnes âgées chez qui on recueille beaucoup, beaucoup d'informations, et ceux qui participent à B-Cube le savent, des données bien sûr sociodémographiques, des données de comportement, des données d'habitude de vie, des données environnementales, des données médicales, des données de l'environnement plus large auxquelles vous êtes soumis. Et on fait des évaluations initialement, et si on peut, régulièrement au cours du temps, avec des tests de mémoire, mais aussi des évaluations avec des imageries cérébrales pour voir, pour aller un peu plus loin dans la connaissance du cerveau. Et tout ça, ça va nous permettre de comprendre quels sont les facteurs qu'on a recueillis qui vont favoriser un vieillissement du cerveau en bonne santé ou, au contraire, être associés à une dégradation et une perte de certaines fonctions cognitives et de la mémoire. Donc, ça nous permet vraiment, ce type d'étude, de comprendre les déterminants du vieillissement cognitif et d'en savoir un petit peu plus pour après enrichir la prévention. Alors pourquoi c'est important de vraiment comprendre ça? Ben parce qu'on a encore, on a fait beaucoup, beaucoup de progrès pour cette maladie, mais on a encore une compréhension partielle du vieillissement cérébral. Ce qu'on sait, c'est quelque chose qui est multifactoriel. Il n'y a pas un facteur qui va faire qu'on va développer une maladie. C'est vraiment multifactoriel. Et ce qu'on sait aussi, c'est que c'est quelque chose qui se développe au très long cours. On vous a parlé tout à l'heure de lésions au niveau du cerveau avant d'avoir la maladie, de phase préclinique ou prodromique. Eh bien oui, il y a une très très longue phase préclinique dans la maladie d'Alzheimer. Et ça, c'est quelque chose de bien parce que ça nous donne une grande fenêtre de prévention. Donc une phase où il va commencer à avoir des lésions au niveau du cerveau, mais il n'y a pas de symptômes, il n'y a pas de clinique. Et donc, on peut faire de la prévention à ce niveau-là. Et ça, c'est ce qui est figuré sur cette diapositive où on voit bien que les lésions, elles vont commencer à se développer très tôt. On parle maintenant de facteurs de prévention dès l'enfance et même dans la vie intra-utéro. Et dès le jeune adulte ou chez l'adulte, ben, on va commencer à avoir des lésions et tout le monde... Je pense que vu l'âge de la salle, et je m'inclus largement là-dedans, on a tous quelques lésions au niveau du cerveau. Et pour autant, on n'a pas de symptômes cliniques. Et donc, on a du temps pour faire de la prévention. On a eu la chance en France, et particulièrement dans notre région à Bordeaux, d'avoir plusieurs études, des études de cohorte comme ça, pour faire de la recherche sur la prévention, qui se sont mises en place. Ça a commencé dès les années 1988. La première étude, c'est l'étude PACUID. C'était une étude qui était faite en Gironde et en Dordogne, qui était menée par le professeur d'Artigues. Et ça a commencé dès ce moment-là. Et à cette époque-là, il y avait eu près de 4000 participants qui avaient été suivis pendant 30 ans. Donc c'est énorme. Et puis, 10 ans après cette étude, on a mis en place une autre étude, qui est l'étude des 3 cités, qui se déroulait dans 3 villes en France, dont Bordeaux. Et là aussi, c'est des participants qu'on a suivis pendant très longtemps. Donc voilà, il y a toute une antériorité de la recherche avec ce type d'étude dans notre région bordelaise. Et je vais juste illustrer un petit peu le type de résultats qu'on peut avoir avec ce type d'études. Ce n'est pas des exemples avec l'étude B-Cube, puisqu'il est encore trop tôt pour avoir ce type de résultats. C'est des exemples avec l'étude des 3 cités. Et j'ai pris vraiment des exemples récents avec des articles scientifiques qui ont été publiés en 2024. Ici, c'est un article qui a regardé quelles étaient les associations avec les différents facteurs de risque que je vous ai présentés. Alors tout à l'heure, j'en avais mis 14, là c'est un autre score, c'est un score Libra, mais grosso modo, ça reprend les mêmes facteurs de risque, tout ce qui tourne autour des facteurs vasculaires, autour de l'inactivité physique, autour de l'alimentation moins saine, de l'obésité, de l'hypertension, etc. Et cette étude, elle est très très intéressante, puisque, alors, encore une fois, je vais avoir du mal à vous montrer les courbes, mais ce que montre cette étude, c'est que quel que soit le risque génétique, alors je m'arrête un tout petit peu parce qu'il y a quelqu'un qui a posé la question dans la salle tout à l'heure et Bruno Dubois a répondu non, ce n'est pas une maladie génétique. Et je suis d'accord avec lui, la maladie d'Alzheimer n'est pas une maladie génétique, en tout cas pas après 60 ou 65 ans. Mais on a des prédispositions génétiques. Donc certaines personnes ont un petit sur-risque, un facteur de risque complémentaire qui là est un facteur de risque génétique. Et on peut avoir une petite prédisposition à cette maladie. Mais la bonne nouvelle de ce résultat, c'est que même avec cette prédisposition génétique, en appliquant bien les mesures de prévention, eh bien, on rediminue son risque. Comme si on n'avait pas cette prédisposition génétique. Donc, ça marche, la prévention, et ça marche chez tout le monde et de la même façon. Donc, c'est ça qui est intéressant avec la prévention. Une deuxième illustration de résultats, c'est pareil, un article qui a été publié en 2024, toujours sur l'étude des trois cités, et là où on s'est intéressé à regarder les contaminants chimiques de l'alimentation. Donc, en demandant aux personnes ce qu'elles mangeaient, en regardant avec des tables de composition les contaminants chimiques. Et ce qu'on a regardé d'abord dans cette étude, on a analysé toute la population et on s'est dit, ben non, il n'y a pas d'association entre les compositions chimiques et le risque de survenue d'une maladie d'Alzheimer au cours du temps. Et en y regardant d'un peu plus près, en fait, on s'est aperçu que, en fait, si, il y avait des associations, mais que ces associations dépendaient de la richesse de graisse dans l'alimentation. Et que seules les personnes qui consommaient ces aliments avec des contaminants dans le cadre d'un régime riche en graisse, avait un sur-risque de développer la maladie. Alors, pourquoi je vous dis ça ? Pas pour faire attention à tout ce que vous mangez, et vous ne connaissez pas les contaminants de tout ce que vous mangez, mais surtout pour vous expliquer l'importance, finalement, de la précision des données qu'on recueille dans nos études et de la précision des analyses qu'on peut faire. Et vraiment, on a besoin de cette précision pour comprendre la maladie, pour comprendre quels sont les facteurs qui vont favoriser cette maladie et pour pouvoir, à terme, faire de la prévention le plus personnalisée possible. Alors oui, on a mis en place depuis quelque temps une nouvelle étude, depuis 2022 exactement, qui est l'étude B-Cube. B-Cube, c'est pour Biobank and Brain Health in Bordeaux, donc BBB, 3B, B-Cube. Voilà. Et l'objectif de B-Cube, c'est de mieux comprendre quels sont les déterminants de ce vieillissement cognitif, de pouvoir prévenir ce vieillissement cognitif et avec un but ultime, c'est de retarder la phase clinique et la phase où on va avoir des symptômes de la maladie. On est toute une équipe derrière, mais une petite équipe quand même, hein, et ceux qui participent à la cohorte reconnaîtront dans les deux dernières lignes les gens qui s'occupent directement de la collecte des données et qui viennent éventuellement chez vous au domicile ou l'infirmière qui est venue vous faire la prise de sang. Et qu'est-ce qu'on fait, en fait ? L'objectif vrai de cette étude B-Cube, c'est de s'intéresser à ce qu'on appelle maintenant, c'est un mot qui est devenu très à la mode, c'est l'exposome. L'exposome, c'est quoi ? C'est toutes les expositions auxquelles une personne va être soumise au cours de sa vie, tout ce qu'elle va rencontrer finalement au cours de sa vie. Et on s'intéresse, il y a différents types d'exposomes, parce qu'on s'intéresse aux expositions psychosociales, par exemple, on s'intéresse au mode de vie, on s'intéresse à l'état de santé. On s'intéresse aux expositions, je vous ai parlé tout à l'heure de toxiques, donc de chimiques. On s'intéresse aux expositions infectieuses. Donc, il y a vraiment différents domaines d'exposition. Et pour bien appréhender tout ça, on va recueillir ces expositions de différentes manières. Vous avez en haut le petit le cercle externe. On va chercher d'abord, en discutant avec vous, en vous faisant passer des questionnaires, à bien comprendre quelles sont vos expositions, donc que ce soit au niveau alimentaire, que ce soit au niveau de vos comportements, de vos habitudes de vie, suivant où vous vivez, à quelle pollution de l'air, à quel toxique, suivant la profession que vous avez pu exercer, vous allez être exposé. Et puis tout ça dans votre organisme, toutes ces expositions, tout votre mode de vie, ça va se transformer dans votre organisme. Et avec les prélèvements sanguins qu'on fait, ce qu'on peut regarder, c'est ce qu'on appelle les métabolites. Comment ça se transforme ? Comment votre organisme, en fonction de votre génétique, en fonction de plein de facteurs, quels sont les métabolites que vous allez avoir dans votre organisme ? Et tout ça, on va le mettre en relation avec les symptômes, entre guillemets. Donc vous n'avez pas encore de symptômes dans B-Cube, mais on va le mettre en relation avec vos performances au test cognitif, votre imagerie cérébrale, et puis, pour l'instant, on ne l'a pas encore, mais on parlait tout à l'heure de biomarqueurs plasmatiques, et vos biomarqueurs plasmatiques de la maladie. Voilà. Et tout ça, ça va vraiment nous permettre d'avoir une vision extensive de toute cette exposome, de toutes ces expositions pour mieux comprendre finalement la maladie et aller plus loin dans la prévention. Donc l'étude BCUP, c'est tout un parcours. Hein. Ceux qui ont participé le savent, il y a une première visite avec une psychologue au domicile, puis une deuxième visite avec une infirmière, et puis pour certains, une imagerie cérébrale. Et puis, on vous rappelle plusieurs fois par téléphone pour vous reposer des questionnaires, pour préciser des informations. Je sais, c'est lourd, mais voilà, je pense que vous avez bien compris que c'est vraiment précieux comme information. L'histoire a démarré alors en 2022 pour le premier participant, pour nous bien avant, parce qu'un protocole de recherche comme ça, ça se travaille bien avant. Et depuis 2022, ben, on a progressé parce que fin septembre, on avait déjà inclus plus de 1300 participants, plus de 1200 qui ont eu la visite infirmière et plus de 400 qui ont passé l'imagerie cérébrale. Et dans l'ensemble, les participants vraiment participent. Quand ils participent à l'étude, quand ils commencent, ils participent à tout. Ils acceptent en grande majorité l'IRM cérébral pour ceux qui sont éligibles. Et ils acceptent en grande majorité non seulement la prise de sang, mais aussi les autres prélèvements qu'on leur propose au cours de la visite. Et ça, c'est juste un diaporama finalement de cette population B-cube. Ben, en moyenne, vous avez 67 ans. En moyenne, on a beaucoup de femmes. Trop de femmes, si j'ose dire. Mais alors, il y a plus de femmes quand on avance en âge. Mais il y en a peut-être certains d'entre vous qui ont noté qu'à un moment, on avait choisi de n'inclure plus que des hommes parce qu'on voudrait être le plus représentatif possible de la population. Et la maladie ne concerne pas que les femmes, elle concerne aussi les hommes. Donc, on a besoin d'avoir des hommes dans cette cohorte. Et on a aussi une population qui est très éduquée, de haut niveau socio-culturel. Et on aimerait aussi avoir une population un petit peu plus contrastée, parce que pour bien comprendre la maladie, ben, il faut l'étudier chez tout le monde. Et voilà, je vais finir avec ce petit flyer. Et si jamais il y en a qui ne participent pas et qui veulent rejoindre la cohorte, n'hésitez pas à aller visiter le site internet ou à venir me trouver en fin de session. Et nous vous accueillerons avec grand plaisir. Je vous remercie de votre attention.
Merci beaucoup, Catherine Elmer, pour toutes ces informations. Il y a des questions, je vois, au fond de la salle. Allez-y, monsieur.
C'est madame, mais...
Ah, pardon, parce que j'ai vu monsieur lever la main. Pardon.
En fait, moi, je voulais vraiment vous remercier d'abord. Et pour l'étude, d'en parler, je trouve ça passionnant. Et puis, ça montre aussi que la complexité et du coup, l'ampleur de la tâche. Ma question, c'est... parce qu'en fait, je trouve qu'on voit bien dans ce que vous expliquez que votre étude, normalement, elle est censée passionner pas que moi, mais je pense qu'elle peut passionner le ministère de la Santé et le ministère de l'Environnement, etc. Parce que ça soulève quand même des enjeux dont on entend déjà beaucoup parler. Ma question, c'est est-ce que la sphère politique s'intéresse à votre étude? Est-ce que vous avez l'intention de faire quelque chose pour qu'ils s'y intéressent? Est-ce qu'il y a des connexions saines, hein, je veux dire, entre ce que vous faites et les enjeux de santé publique à différents niveaux?
Alors, bien sûr qu'une étude comme ça, ça a vocation à être... on a vocation à diffuser nos résultats. Pour l'instant, on est vraiment la phase de collecte des résultats. Donc, mais c'est clair qu'on a on a vocation à les diffuser. Et puis, nous, dans la recherche, on cherche toujours de l'argent, on cherche toujours des financements. Cette étude, pour l'instant, elle est financée en majorité, en tout cas, toute la phase de démarrage a été financée par des fonds privés. Et par BPI France, hein, tout simplement, c'est des investissements. Et nous, on cherche toujours des financements. Et là, l'investigatrice principale de l'étude a eu la chance d'obtenir des gros financements au niveau européen pour pouvoir nous permettre de continuer l'étude et de vraiment pouvoir voir tous les participants qu'on souhaite voir. Mais bien entendu, après, quand on va commencer à avoir des résultats, je pense que ça va être intéressant et qu'on va diffuser. Et c'est aussi des moyens d'enrichir la recherche en ayant des financements pour pouvoir poursuivre et faire des choses encore plus intéressantes. Donc oui, on fera. Il y a une question derrière.
Oui, merci. Donc ce serait pour un témoignage et une question. Donc je suis parti de la cohorte B-Cube. Je veux vraiment dire que c'est très bien, très très bien fait, très agréable. Et c'est vrai que ce n'est pas très contraignant, il faut le reconnaître, hein, tout ce qu'on nous demande, très bien. Et ce que j'ai aussi apprécié, c'est qu'à la fin de différentes interventions, eh bien, j'ai eu un appel d'un docteur, donc j'ai oublié le nom, si je l'ai su, qui m'a proposé une consultation au centre mémoire, où là, j'étais reçu par le docteur Liéger, si je ne me trompe pas, qui m'a expliqué qu'on avait vu des substances blanches au niveau de l'IRM, qui m'expliquait ce que c'était que les hypersignaux de substances blanches, et peut-être, par des automesures de l'attention, peut-être faire partie d'une autre cohorte. Donc je veux dire que voilà, moi j'y suis venu parce qu'on m'avait dit il y a trop de femmes, on cherche des hommes, donc je suis venu tout à fait sain, très bien. Bon, j'étais rassuré par rapport au centre de recherche, mais je veux dire, c'est vrai que ben, il faut y aller. On a peut-être une chance d'avoir une surveillance anticipée. Voilà. Merci en tout cas.
Alors,
merci pour votre témoignage.
Ouais, merci.
Ma question, c'était pour la cohorte Shiva.
Oui.
Si vous pouvez dire deux mots là-dessus, sur la cohorte Shiva.
Alors, la cohorte Shiva, justement. Alors, d'abord, je vous remercie pour votre témoignage, parce que c'est important d'avoir des témoignages comme ça. Parce que nous, c'est une question qu'on s'est posée hein, dans la cohorte. Vous avez à l'imagerie cérébrale des petits signes qui ne sont pas quelque chose qu'en clinique on traite d'habitude. Et qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on rappelle les gens? Est-ce qu'on leur propose quelque chose? On va en inquiéter certains, on le sait, et c'est compliqué. Ou est-ce qu'on leur propose rien? Et d'un autre côté, on se situe dans le cadre d'une recherche en prévention. Ne rien leur proposer, ça ne nous semblait pas éthique. Donc on a choisi de proposer quelque chose et de proposer cette consultation de prévention. L'accord Shiva, c'est un autre projet qui justement travaille sur ces petites lésions, ces hypersignaux, pour voir un petit peu comment les gens qui en ont, plus ou moins, vont évoluer. Et est-ce que si on les prenait mieux en charge, on évoluerait moins rapidement vers des troubles cognitifs. Voilà, c'est un petit peu ça. C'est une recherche un petit peu annexe, mais c'est une recherche qui est menée par d'autres personnes dans notre centre de recherche. Et nous, on s'est mis en lien avec eux parce qu'on travaille aussi avec eux. Et ils ont l'expertise sur ces hypersignaux. Et c'est pour ça vraiment qu'on a souhaité que les participants BQ puissent en profiter.
Merci beaucoup, Catherine Elmer. Merci. On va écouter... Allez-y, parce que... Posez. Une vision oui. Et un planning de cette étude.
Une vision du planning de cette étude, alors c'est très...
Les premiers résultats que vous pourrez avoir.
C'est très, très compliqué. Les études comme ça, on les commence. Donc, les participants B-Cube qui se sont inscrits pour cette étude, ils ont commencé pour... une phase d'étude. Et nous, ce qu'on espère derrière, c'est vrai, c'est pouvoir suivre les participants au plus long cours, parce que c'est là que la recherche s'enrichit le plus. Des résultats, on va en avoir dès que l'ensemble des participants seront collectés et qu'on va avoir fait les premières analyses biologiques. Donc on prévoit d'avoir fini les inclusions des participants à peu près dans un an. C'est très long, je le sais, et pour les participants c'est très long, mais malheureusement le temps de la recherche il est celui-là. Donc je dirais les premiers résultats scientifiques qui vont sortir, ça sera fin 2025, début 2026. Mais c'est long. Pardon ? Vous risquez fort d'être appelé parce qu'on a déjà obtenu certains financements et donc on a déjà prévu, dès le printemps prochain, de recontacter les premiers participants de la cohorte. Voilà.
Merci beaucoup.
Merci à tous les participants, en tout cas.